puisse ouvrir la Bible dans le psaume 63. Pendant que vous cherchez le psaume, je vous passe aussi les salutations des pasteurs et des chrétiens de l'église de Royan, où on a eu l'occasion d'aller, ainsi que La Rochelle. Et c'est vrai, quand on regardait l'océan, quand on regardait tout ça avec mon épouse, avec les enfants, on se disait comment Dieu est grand. Il y en a un autre qui disait ça, qui avait une relation particulière avec Dieu, c'est le roi David. Et c'est ce psaume 63 qu'on connaît bien, qu'on va lire ensemble en entier. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive. Ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera. Car la bouche des menteurs sera fermée. Amen. Vous avez remarqué que le contexte, il est dressé. L'auteur, il est connu. Tout à l'heure, on parlait d'un livre où on ne connaît pas l'auteur. Là, c'est clair, c'est dit, c'est écrit et c'est même précisé David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, à quel moment ? Parce que David, il n'a pas connu une seule fois le désert, mais il a connu plusieurs fois. À plusieurs moments, il a dû fuir. Mais là, on s'aperçoit qu'il était quand même roi. Il avait déjà cette position et il a dû fuir, même étant roi, il a dû connaître un désert. Savez-vous que même quand on a un certain succès sur la terre, on peut connaître quand même le désert. Même quand on est dans les chemins du Seigneur, on peut connaître des temps de désert. On imagine donc que quand David a écrit ce psaume, c'était peut-être au moment où il fuyait son fils Absalom. Lorsque Absalom a fait un coup d'état, qu'il a voulu prendre le pouvoir, qu'il a voulu mettre de côté le papa à la retraite et prendre sa place. Et à cette époque, vous savez que quand c'était comme ça, souvent le roi en place, on le tuait. Hein. C'est comme ça que ça se passait, c'était radical. C'était pas des élections et tout ce qu'il y a aujourd'hui, la démocratie. Je prends le pouvoir, je tue tous les opposants. Et donc David a fui avec sa famille, avec ses enfants, ses femmes, avec toute la suite, tous les soldats qui étaient là. Et même il est dit qu'un homme prenait des cailloux et lui lançait des cailloux et le maudissait. Je ne sais pas si vous voulez connaître ce désert-là, de David. C'est le désert de David. Mais on sait que chacun de nous, on traverse des déserts. On traverse tous des déserts. Et même si ce n'est pas d'un point de vue personnel, on sait aussi de manière très claire que notre pays est dans un temps de désert spirituel. Là, il n'y a pas besoin d'être prophète pour le savoir. Mais ça ne veut pas dire que parce que notre pays est dans un temps de désert, que nous, on doit être desséchés. C'est ça qui fait toute la différence. Et qu'est-ce qui est intéressant dans ce psaume ? C'est de voir ce que fait David dans le désert. David n'est pas en train de pleurer, de se plaindre, de gémir, de supplier. Si, peut-être il supplie, mais pour certaines choses dont on va voir un petit peu la profondeur, quelles étaient les dispositions du cœur de David, ce cœur dont il est dit qu'il était un cœur selon le cœur de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu. Donc on sent que dans le cœur de David, il y avait des choses qui plaisent à Dieu. Dans le désert, David, il a eu un cœur qui a cherché, qui a compris, qui a chanté, qui croit, qui se connecte, qui est confiant. On va voir tout ça. Mais ça commence par ce simple verset, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. » Avez-vous déjà réfléchi à cette pensée qu'avant de pouvoir chercher Dieu, il faut reconnaître Dieu ? avant de pouvoir rechercher Dieu, de pouvoir soupirer après Dieu, de pouvoir avoir ces temps particuliers dans la présence de Dieu, il faut reconnaître Dieu comme notre Dieu. Est-ce que Dieu est un Dieu, ou le Dieu au-dessus de la terre, ou alors est-ce qu'il est votre Dieu? Est-ce que vous pouvez dire, tu es mon Dieu? Et ça, ça change tout quand on est capable de dire, tu es mon Dieu. Mais pour que Dieu soit notre Dieu, pour que Dieu nous appartienne, entre guillemets, il faut en fait se donner totalement. Il n'y a pas d'autre choix. On ne peut pas dire, Seigneur, je veux que tu sois mon Dieu, mais toi, tu vas obéir à mes règles, tu vas faire comme ci, comme ça, tu vas bénir mes décisions, tu vas faire ma volonté. C'est pas ça, hein? Ça, c'est pas mon Dieu, c'est nous qui sommes Dieu et Dieu est notre serviteur. Non, Dieu est mon Dieu, ça veut dire je m'offre totalement, à 100%. La totalité de mon être est à toi, corps, âme, esprit. Vous savez qu'au temps de l'apôtre Paul, il y a eu des doctrines qui ont commencé à germer, comme quoi on pouvait vivre, avoir une foi, on pouvait être à l'intérieur obéissant à Dieu, et en même temps on pouvait faire dans son corps tout et n'importe quoi. Et c'était pas grave parce que c'était soi-disant séparé. Et c'est pour ça que Paul a écrit, par exemple, « Notre corps est le temple du Saint-Esprit. On ne peut pas faire n'importe quoi parce que notre être tout entier appartient au Seigneur. Nous sommes entièrement au Seigneur. » D'ailleurs, David dit « Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. » David fait le lien entre les deux. Notre âme et notre corps ne sont pas séparés, on ne peut pas les couper l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Non, non, c'est notre être entier qui appartient à Dieu dans chaque aspect de notre être, nos volontés, notre temps, nos décisions, notre argent, notre vie, nos enfants, notre famille, notre travail, notre maison, tout appartient à Dieu. C'est ça que ça veut dire, tu es mon Dieu. Et encore, j'ai fait une liste, mais elle est longue, hein, on pourrait continuer. Mais quand on est capable de dire, Seigneur, tout est à toi, alors on peut dire, oui, tu es mon Dieu. Et on voit que dans cette relation de David, il cherche le Seigneur, mais ne le cherche pas du bout des lèvres. D'ailleurs, ce cantique a inspiré plusieurs cantiques. On reconnaît là plein de choses. Hein. J'ai soif de ta présence, j'imagine qu'il y a quelque chose qui a été sorti de là. Mes lèvres, car ta bonté vaut mieux que la vie, etc. Il y a toutes sortes de cantiques qui sont germés de ce cantique-là, mais qui montre la relation que David il avait avec son Seigneur. Ce n'est pas quelque chose de plat, ce n'est pas quelque chose de neutre, mais c'est quelque chose d'intense, de profond. Pourtant, on pourrait se dire quand même, il est dans le désert. Dans le désert, il pourrait s'inquiéter, il pourrait avoir peur, il pourrait penser à l'avenir, comment ça va se passer. Mais il est en train de dire, Seigneur, je te cherche dans le désert. Je te cherche parce que tu es mon Dieu. Et peut-être que c'est une occasion que tu me donnes, une opportunité que tu me donnes d'avoir du temps pour te chercher, parce que j'étais peut-être submergé par les affaires de la vie du roi. Le roi devait rendre des jugements, il devait décider pour aller à la politique de la guerre, il devait faire ceci, cela. Et là, dans le désert, ben, il se retrouve à plus avoir tout ça à faire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne met pas les mains dans les poches. Non, je te cherche. Et il cherche Dieu vraiment de manière profonde. David transforme son lieu désert en un lieu de dépendance. Et combien c'est bon quand on traverse un temps de désert de dire, Seigneur, je veux être dépendant de toi. Aujourd'hui, je manque d'eau. Aujourd'hui, j'ai faim. Aujourd'hui, j'ai soif. On sent qu'il y a tout ça dans le cœur de David, mais il ne dit pas, Seigneur, pitié, donne-moi à manger. Non, il dit, de la même manière que mon cœur a soif, je veux avoir soif de toi, Seigneur. Quand on est dans des temps de manque, c'est des bons contextes qu'on doit utiliser pour chercher Dieu. Peut-être qu'on est dans un temps de manque de liberté, on entend ça partout, mais est-ce que ce n'est pas une occasion de chercher Dieu encore plus? Vous savez, parfois je suis étonné parce que je vois des gens qui paraissent tout timides, pas évident d'accéder au niveau de la communication, et puis dès qu'on parle du vaccin ou de l'épidémie, alors là ils vont parler à fond, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, hein. Je ne fais pas de jugement d'un côté ou de l'autre. Mais je me dis, si tous les chrétiens avaient autant de zèle pour parler du Seigneur que pour parler du vaccin, ben je crois que la France serait convertie en entier, facilement. Des fois, on perd nos forces, notre temps, on s'épuise à des sujets qui n'en valent même pas la peine, alors que chercher Dieu, chercher la face de Dieu, contempler la gloire du Seigneur, ça, je crois que ça vaut la peine. Ça vaut toutes les peines du monde. Et il y a une prière que Dieu ne peut pas refuser. Je l'ai tellement de fois expérimenté dans ma vie. C'est cette prière, Seigneur, renouvelle ma soif. Renouvelle ma soif de toi. Il y a des moments où on a l'impression justement qu'on a vécu de belles choses, mais on arrive comme un temps un peu de calme, de plateau, et qui devient presque un danger de s'arrêter sur le chemin. Seigneur, renouvelle ma soif, redonne un élan, fais quelque chose de nouveau dans mon cœur. Mais je peux vous dire qu'à chaque fois que j'ai fait cette prière, ben Dieu a fait concourir les circonstances. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un pasteur de passage qui a donné une prédication qui m'a fait du bien. J'ai lu un livre qui m'a encouragé. J'ai entendu un chant qui m'a fait du bien aussi. Peu importe le moyen. Peut-être que j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a donné une parole qui m'a fait du bien aussi. Mais de toute manière, le Seigneur a renouvelé la soif dans mon cœur. Et David avait soif de quoi précisément? Il avait soif de contempler le Seigneur dans son sanctuaire pour voir sa puissance et sa gloire. Ça vous intéresse de voir la puissance et la gloire du Seigneur? Je crois que chaque croyant, on a envie, on a le désir. Mais est-ce qu'on a vraiment envie et vraiment le désir au point de soupirer, au point de supplier le Seigneur? Seigneur, je veux voir ta puissance et ta gloire. Mais ça demande de l'investissement, ça demande de le rechercher. Et quand on le fait de tout notre cœur, ben le Seigneur manifeste sa grâce. J'ai remarqué souvent quand on est dans des camps, dans les colonies, dans des temps un petit peu mis à part pour chercher le Seigneur, les gens viennent avec une attente plus grande que quand c'est à l'église de manière routinière. C'est dommage, hein, parce que si on venait toujours dans cette atmosphère-là, ben le Seigneur, il honore la foi, hein, tout simplement. Mais c'est ce qui s'est passé dans ce camping, alors que tous ceux qui sont venus, ils attendaient, ils ne savaient pas trop comment ça allait se passer, même nous, hein. D'ailleurs les premiers, ne savaient pas trop, on ne connaissait pas bien, mais tout le monde venait avec une attente de la part du Seigneur. Et je peux dire qu'on a vu la gloire de Dieu, parce qu'il y avait une dame qui nous a demandé de prier pour son mari. La nuit précédente, il avait dormi que 3 fois 5 minutes. Il était épuisé, on voyait sur sa tête qu'il était fatigué. Et tout ça parce qu'il avait une douleur dans le genou. Et le dimanche qui allait suivre, il devait servir, je crois, à l'accueil ou à la sécurité dans une église. Donc il devait être debout, marcher, etc. Et avec sa jambe, on l'a vu. En fait, à chaque fois qu'on le voyait, il était en train de boiter, cet homme. Et donc la dame nous a demandé de prier pour lui. Ça faisait déjà 2 mois qu'il souffrait de cette jambe qui le faisait souffrir et qu'il dormait très mal. Et donc avec un frère, on a simplement prié pour lui. Mais déjà, après la prière, on a vu qu'il avait une nouvelle façon de marcher. Et c'est comme, en fait, s'il avait gardé l'habitude de boiter, mais qu'il arrivait à aller plus loin, en fait. Et on s'est aperçu qu'il faisait un mouvement qu'il n'arrivait pas à faire auparavant. Et ce qui est merveilleux, c'est que la nuit, aucune douleur. Il a dormi plus de 6 heures. Bon, les plus jeunes disent 6 heures, c'est pas beaucoup. Mais quand on a fait 15 minutes, 3 fois 5 minutes, passer à 6 heures, c'est tellement beaucoup. Et on a eu quelques nouvelles dans la semaine, je crois, c'est ça, hein, qui disaient que ça allait de mieux en mieux au niveau de sa jambe, parce que le Seigneur était intervenu. C'est ça, voir la puissance et la gloire du Seigneur. Mais on sait très bien que la gloire, c'est la gloire du Seigneur. Nous, on n'est que des hommes, et celui qui guérit, c'est le Seigneur. Mais est-ce que nous venons dans la présence du Seigneur en ayant ce désir? Seigneur, je veux contempler ta puissance. Je veux contempler ta gloire. Je veux la contempler dans les témoignages que j'entends, merci Seigneur, mais je veux la contempler pour moi, pour ma vie, pour mon besoin, pour ce que tu veux daigner de me donner, Seigneur, parce que tu m'aimes. C'est un cœur qui cherche Dieu, mais un cœur aussi qui comprend les priorités, car ta bonté vaut mieux que la vie. Le mot bonté, il est très très fort, très large. Ça veut dire bienveillance, ça veut dire grâce, ça veut dire miséricorde, ça veut dire amour. On pourrait traduire aussi par l'amour agapé, ça colle très bien. C'est cette bonté-là, immense. Ça rejoint cette prière que Moïse a faite. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est la même prière, hein. Et qu'est-ce que Dieu va répondre? je vais te faire passer devant toi ma bonté. La gloire du Seigneur avant toute chose, et d'ailleurs c'est quelque chose qui est ressorti dans le témoignage que je viens de vous raconter, ce qui est ressorti, ce qui a donné la capacité de bénir cet homme, c'est d'abord et surtout l'amour de Dieu. Prier pour quelqu'un sans avoir d'amour, sans avoir de compassion, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne vient pas du fond de notre cœur. Est-ce que Dieu agit comme ça envers nous? Est-ce que quand Dieu agit, il fait les choses parce qu'il faut les faire, parce que c'est comme ça? Ou est-ce qu'il est fait du fond de son cœur? Ta bonté, Seigneur, vaut mieux que la vie. Le plus important sur la terre, ce n'est pas le confort du palais royal que David a laissé, mais c'est la bonté de Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que la bonté de Dieu, on l'a n'importe où, où on va. La bonté du Seigneur, la bienveillance, la faveur de Dieu. Oh, quand je sais que Dieu a sa faveur sur moi, ben dans mon cœur, il y a quelque chose qui se passe, qui fait que je suis confiant, qui fait que je suis plein de joie et plein d'espérance. Quand la faveur de Dieu est sur nous, quand la faveur de Dieu est sur une église, quand la faveur de Dieu est sur des hommes et des femmes qui cherchent la face de Dieu, il y a des choses qui se passent. David le savait. Et même si en attendant il était dans le désert, il était avec le sable, alors le sable quand on est au bord de la mer c'est bien, mais quand on est dans le désert et qu'on a soif, c'est embêtant. Il y en a partout, mais il dit « Seigneur, c'est ta bonté qui vaut mieux que la vie. Pendant ce moment, je souffre dans mon corps, mais c'est pas grave parce que j'ai toujours ma bonté, ta bonté où je peux me raccrocher. Peu importe mon désert, Seigneur, tu es là. » Est-ce que vous avez un temps d'épreuve? Est-ce que vous avez un temps de persécution? Est-ce que vous avez un temps de maladie? Est-ce que vous avez des circonstances passagères défavorables? Le plus important, c'est que la bonté du Seigneur est là. Le plus important, c'est que sa faveur soit sur vous. Il y a un chant qui m'est remonté alors que je pensais à ce psaume, un chant qu'on apprend souvent aux enfants, mais qui n'est pas forcément pour les enfants, c'est le chant qui dit... Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai. Mais c'est surtout une strophe qui m'est remontée à la mémoire. Prends tout le monde, mais laisse-moi Jésus. Prends tout le monde, mais laisse-moi Jésus. Et une autre strophe qui dit, la croix devant moi, le monde derrière moi. Et je trouve que c'est vraiment une bonne schématisation, un bon résumé de ce que David est en train de parler, surtout quand on étudie le contexte où ce psaume, des paroles sont sorties de la bouche d'un chrétien. Il était dans un temps de persécution, il était dans un village en Inde, au nord-est de l'Inde, dans une province, avec face à lui un village entier, le chef du village qui lui demandait de renier le Seigneur. Et la menace qui était là, c'était « tu renies Dieu, tu renies Jésus ». Sinon, on tue ta famille, on tue tes enfants, on tue ta femme. Et cet homme a dit, donc ces paroles qui ont inspiré ce chant, « Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. » Et ils ont transpercé de flèches ses enfants. Alors, est-ce que tu veux toujours pas renier ton Seigneur? Et là, il dit, « Prends tout le monde, mais laisse-moi Jésus. » Hop, la femme. Alors, est-ce que tu vas renier ton Seigneur? La croix devant moi. Le monde derrière moi. Et ils l'ont tué. Alors, c'est pas lui qui a fait le chant, mais il a prononcé des paroles. Et alors que cet homme était là, par terre, gisant dans son sein avec sa famille, tous ensemble, dans la présence du Seigneur, le chef du village a été transpercé, lui, dans son cœur, pas par une flèche, mais par la foi de cet homme. Et il s'est dit, moi aussi, je veux avoir une foi comme ça. Ma religion, elle m'apporte pas une foi aussi forte. Je veux donner ma vie, je veux suivre Jésus. Et devant l'exemple du chef du village, ben plusieurs personnes du village ont donné leur vie au Seigneur. Mais à quel prix? Vous allez me dire à quel prix? Mais c'est quelqu'un qui a compris, cet homme qui a dit « j'ai décidé de suivre Jésus », c'est quelqu'un qui a compris que la bonté de Dieu vaut mieux que la vie. C'est quelqu'un qui a compris que la faveur de Dieu vaut mieux que la vie. Alors bien sûr, Dieu a des plans différents pour chacun, mais... Combien c'est bon quand on vit notre vie sur la terre en rendant grâce au Seigneur et en disant « Seigneur, peu importe ce qui m'arrive, c'est ta bonté, c'est ta bienveillance, c'est ta faveur que je veux. » Et demandons au Seigneur d'ouvrir les yeux de notre cœur pour qu'on comprenne ce qui est important à ses yeux, à lui. Dieu nous donne sa grâce, Dieu nous bénit, et on ne peut pas dire le contraire. Mais est-ce que nous allons laisser la bénédiction prendre le dessus sur la relation avec Dieu, ou est-ce que nous allons toujours mettre en premier la bonté du Seigneur? Un cœur qui comprend donc les priorités, mais aussi un cœur qui chante tout le temps. « Mes lèvres célèbrent tes louanges, je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. » C'est une décision, c'est un choix de louer Dieu. Ce n'est pas le chantre qui dit « maintenant on chante ». Ben, bien sûr que ça se passe comme ça, mais personne ne peut vous obliger à louer Dieu, parce que c'est une décision. Vous pouvez le faire au moment des chants, vous pouvez le faire après les chants, vous pouvez le faire dans votre chambre, dans votre voiture, peu importe le moment, mais vous décidez, Seigneur, je veux te louer, je veux te rendre la gloire, je veux te remercier pour les bonnes choses que tu fais, je veux te remercier pour qui tu es, Seigneur, je décide de te célébrer. Parfois, on a du mal à célébrer les louanges, mais on n'a pas de mal à célébrer les louanges du diable. C'est fort comme de le dire comme ça, mais des fois on exprime nos peines, et on a le droit, hein, attention, on a le droit d'exprimer nos peines, on voit les psaumes remplis de gens qui expriment leur douleur, leur peine, leur doute même, mais si on s'arrête là, ben on commence à célébrer le diable et toutes les mauvaises œuvres qu'il a faites. Je me souviens de cette dame qui était venue un jour, en furie dans l'église, parce qu'elle venait de vivre un truc, des injustices au travail avec une dame, elle faisait que dire « Ah, cette dame, elle est méchante, elle parle mal, elle a fait ceci, elle a fait cela. » Mais elle faisait que dire ça et ça n'arrêtait pas. Et elle était énervée, en colère. Et j'ai été obligé de lui dire « Ma sœur, vous êtes en train de louer le diable pour ses mauvaises œuvres. Maintenant, vous avez vécu quelque chose de difficile, je le comprends, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, déclarez que Dieu va s'occuper de cette affaire. » Et Dieu s'est occupé de l'affaire en plus. Le lendemain, elle n'a rien eu à faire. Dieu a tout arrangé au travail. Il a mis de côté la personne. Parce que cette dame a compris qu'il fallait qu'elle arrête. On sort les choses mauvaises qui se passent en nous, on les sort dans la prière, on les confesse, etc. Seigneur. Mais après, on déclare et on loue le Seigneur. On déclare la victoire du Seigneur. C'est ça de chanter les louanges du Seigneur en tout temps. Un cœur qui chante, un cœur qui croit aussi que Dieu a tout dans sa main. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Où est-ce qu'il est, David ? Ben, toujours dans le désert. Et pourtant, dans le désert, il est en train de penser au merveilleux repas succulent, mais il a compris que ce n'était pas physique, mais c'était surtout spirituel. Quoique, on sait qu'à un moment donné, Dieu a envoyé un homme vers David pour pourvoir à tous ses besoins matériels, pour prendre soin du roi qui était en fuite. Lisez le livre des rois, vous comprendrez l'histoire. Donc, de manière pratique, Dieu a béni, mais David avait compris que le plus important, c'est que son âme soit rassasiée. Et quand il est question des mets gras et succulents, il est question de cette nourriture riche et abondante. Seigneur, je ne veux pas lire la Bible de manière mécanique, de manière routinière, et que ça ne m'apporte rien, mais je veux cette nourriture riche et abondante, consistante, qui va me donner de la force, qui va me donner du courage, qui va permettre que peut-être aussi j'encourage la personne qui sera à côté de moi, à qui je vais en parler. C'est ça la nourriture riche et abondante. Quand ça déborde, quand on en a trop, ben c'est facile de donner à notre voisin, c'est facile de faire la grâce. Je me souviens quand on était étudiant, à chaque fois on arrivait à l'église avec le désir de partager un des versets qu'on avait lus la veille, qui nous avait fait du bien pendant la semaine. Et donc, une fois c'était l'un, une fois c'était l'autre, chacun à son tour, on se partageait les versets, ça nous faisait tellement de bien. Surtout de voir aussi que dans mon frère, dans ma sœur, Dieu lui parle, Dieu lui communique des choses, et au travers de lui et d'elle, ça me fait du bien, à moi. Un cœur qui se connecte à Dieu même la nuit. Que faites-vous quand vous vous réveillez la nuit ? Vous allez sur Facebook ou sur les réseaux, ah, vite, qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'ai dormi, les 2 heures que j'ai dormi ? Ou alors vous dites, Seigneur, je suis devant toi, je suis dans le calme, je veux en profiter pour te prier. Vous savez, des fois on est à semi-réveillé ou semi-endormi, prenez ce que vous voulez, mais le cerveau, il se met en route, l'âme, elle se met en route pour se tourner vers le Seigneur. C'est merveilleux quand on est dans ces moments-là. Et il y a des choses. Moi, ça m'est, combien de fois ça m'est arrivé? Des fois, on se couche avec des soucis, avec des situations. Mais comment est-ce que je vais pouvoir gérer ça? Et puis, dans la nuit, on se réveille. Et puis, c'est comme si le Seigneur nous dit, mais voilà ce qu'il faut faire. Clac, 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 clac. Et on est là, les bras ballants. Et puis, Seigneur, t'es merveilleux. Seigneur, c'est pour ça que je veux méditer sur toi pendant l'éveil de la nuit. Je veux penser à toi quand je suis dans mon lit. Mais pas que, jour et nuit, je veux penser au Seigneur, me connecter à ta présence. Et je veux avoir cette confiance parce que tu es le secours, parce que tu es celui qui me protège à l'ombre de tes ailes. Regardez cette progression au niveau de l'âme de David. Ça commence par son âme qui a soif, son âme qui est rassasiée. Et là, il est dit au verset 9, « Mon âme est attachée à toi ». Il a soif, il est rassasié, et maintenant il a vécu quelque chose de supplémentaire avec son Dieu. On peut vivre toute la vie chrétienne, et j'ai vu des gens comme ça tellement malheureux, qui font presque pitié de voir des gens qui connaissent les choses de Dieu, mais qui ne sont pas attachés à Dieu, et qui sont frustrés, parce qu'ils lisent des choses et ils ne les vivent pas. Et je peux vous dire, ça frustre quand on lit. Moi, ça m'a frustré à un moment donné quand je disais, mais il y a ça qui est écrit, et puis je ne vis pas. La parole de Dieu comme une nourriture solide, et finalement, j'ai l'impression d'avoir toujours faim. Mais quand on cherche Dieu, quand on a soif de Dieu, et vraiment soif de Dieu, le Seigneur nous rassasie. Et il y a un lien qui se crée avec Dieu. Il y a cette intimité avec le Seigneur. Et pourtant, David n'oublie pas les combats auxquels il est confronté. Il parle de ceux qui cherchent à lui ôter la vie. Mais regardez comment il en parle. Regardez la vision que cet homme il a parce qu'il a contemplé la puissance et la gloire de son Seigneur. Comment il regarde maintenant les ennemis. Les méchants, ils rentrent dans les profondeurs de la terre. Et lui, David, qui est pourtant dans la terre desséchée et sans eau, il est dans la présence de son Dieu. Les méchants seront livrés au glaive. David, lui, vous savez où c'est qu'il se trouve? Il le dit juste avant, à l'ombre de tes ailes. Je connais une personne qui a travaillé dans une usine qui produit des oreillers et des couettes en véritables plumes de canard et d'oie. Dans les Landes, c'est pas très loin. Et je sais que plusieurs personnes qui ont goûté aux oreillers, aux couettes en plumes de canard ou en doigts, ils ne voulaient pas revenir aux matériaux synthétiques, tellement c'était doux, tellement c'était moelleux et tout ce que vous voulez. Alors il y en a qui sont allergiques, mais ceux qui avaient goûté à ça et qui le supportaient bien, ils ne pouvaient pas s'en passer. Et j'imagine, c'est bien ça, les couettes en plumes d'oie, très bien, mais j'imagine ce que c'est, parce que j'y ai goûté, que d'être à l'abri sous les ailes de l'Éternel. C'est beaucoup plus moelleux et confortable et reposant que toutes les couettes du monde d'être à l'abri du Très-Haut, celui qui demeure à l'abri du Tout-Puissant. Il repose à l'ombre de l'Éternel. Amen. Ils sont livrés aux glaives. Et les glaives, c'est autre chose, hein, c'est piquant. Mais à l'abri du Très-Haut, on est dans ce calme, on est dans cette confiance, on est dans ce repos. Les méchants seront le repas des chacals, ils seront la proie. Mais David, lui, il sera rassasié par son Dieu. C'est Dieu qui s'occupe de nos ennemis. David n'est pas en train de dire « Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela ». Il dit « Seigneur, je sais que tu vas faire ». Moi, ma tâche, mon rôle, c'est d'avoir soif de toi. C'est de te chercher vraiment. C'est pas de te chercher du bout des lèvres, mais c'est d'avoir cette relation véritable avec toi. Que faire, frères et sœurs, dans le désert? Ben, suivons l'exemple de David. Ayons ce cœur qui bat pour Dieu. Contemplons la puissance et la gloire. Regardez quand même ce dernier verset qui est intéressant. Quiconque jure par Dieu s'en glorifiera et la bouche des menteurs sera fermée. Dieu ne tergiverse pas avec le mensonge. Quand on fait semblant, quand on ment, Seigneur le voit et ça revient contre nous. Mais ceux qui, et il faut le voir le bon sens, ceux qui font les choses de manière honnête, vraie, sincère, authentique, qui reconnaissent aussi que peut-être parfois ils se sont trompés, mais qui choisissent d'aller sur la bonne voie, ben le Seigneur s'engage à les bénir, à leur montrer sa gloire. Ils se glorifieront parce qu'ils verront la puissance et la gloire du Seigneur. Fermons les yeux quelques instants, mais alors que nous sommes là et que le Saint-Esprit est là, surtout, laissons-lui l'occasion de sonder nos cœurs, d'éprouver nos reins et de voir s'il y a cette disposition dans nos cœurs ce matin. Est-ce que nous avons soif de l'Éternel? Est-ce que nous cherchons Dieu? Est-ce que nous avons confiance malgré le désert, malgré le manque? Est-ce que nous laissons le manque de choses matérielles nous submerger et nous faire oublier le manque, le vide que nous avons dans le cœur et qui a exactement la forme de Dieu? Ce matin, Dieu est là et Dieu veut nous remplir. Ce matin, l'Esprit de Dieu est là comme un fleuve et il veut être déversé dans nos vies, dans nos âmes. Ce matin, le Seigneur veut que nous voyions sa puissance et sa gloire. Ce matin, le Seigneur veut aussi qu'on puisse être honnête devant lui. Et s'il y a un manque dans notre cœur, à cause d'une épreuve, disons-lui simplement, là où nous sommes, faisons connaître à notre Dieu les choses qui ne vont pas. Et croyons qu'il a dans sa main tout ce qu'il faut pour nous rassasier. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Les sources d'en haut sont abondantes. Et quel que soit ce que nous pouvons vivre, le Seigneur sait ce qu'il nous faut et il donnera. Éternel, je veux te bénir ce matin encore. Merci pour cet exemple que tu nous donnes au travers de David, cette relation qu'il a avec toi. Ce matin, tu vois dans ce lieu combien d'hommes et de femmes ont soif de ta présence. Combien d'hommes et de femmes, Seigneur, désirent te contempler. Contempler ta puissance, contempler ta gloire. Combien d'hommes et de femmes désirent être rassasiés de ta présence. Seigneur, tu connais nos vies. Tu connais, Seigneur, nos cœurs. Tu sais combien nous voulons que ta bonté, ta faveur soient manifestées envers nous, envers cette Église, envers ce département qui en a tant besoin. Et nous savons, Seigneur, que peu importe ce que le monde peut nous enlever, rien ne pourra nous enlever ton amour. Rien ne pourra nous séparer de ton amour, Seigneur. Et nous voulons ce matin encore laisser nos âmes s'attacher à toi, développer plus de communion avec toi, Seigneur. Tu connais aussi les combats que nous devons mener dans le futur. Tu connais déjà d'avance les dangers, les épreuves, les déserts. Mais tu es le Dieu qui veut simplement, par ta présence, rassurer nos âmes. Oui, nous voulons nous placer à l'abri, sous tes ailes, dans ta paix, dans ton repos, dans ce repos de la foi. Seigneur, suscite la foi dans les cœurs, augmente notre foi. Seigneur, que nous puissions avoir de plus en plus soif de toi, soif de voir des choses merveilleuses se passer, Seigneur, parce que tu es ce Dieu qui accomplit les choses comme tu l'as fait hier. Que ton nom soit béni, Éternel. Amen.